Osmose Radio.
Osmose.
La web radio.
L'heure du loup.
Le meilleur des musiques sombres
sur Osmose Radio.
Ohayo gozaimasu, mes petits loups, soyez les bienvenus sur Osmose Radio, sur laquelle vous venez de vous brancher, c'est une excellente idée, puisque ce soir, ce mardi soir, vous êtes à l'écoute de l'heure du loup avec Stéphane, et ce soir, je vous propose d'aller au loin, en fait, de quitter ce pays où il y a des feuilles qui jaunissent, des tremblements de terre et des usines qui explosent et qui polluent un peu partout. On va à l'autre bout du monde, où il y a des arbres qui rougissent, des tremblements de terre et des usines qui polluent en radioactivité un peu tout le Pacifique. ouais, ça valait peut-être pas la peine d'aller si loin, mais toujours est-il que ce soir, je vous propose une playlist consacrée au Japon. Et on commençait justement pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance avec une petite dédicace à un grand petit personnage de la petite littérature japonaise, j'ai envie de dire, puisqu'Indochine, chantait Nicolas Sirkis, chantait sur ce titre en Indochine Astro Boy, Astro le petit robot dans la version française, qui aura été, je crois, le premier héros de manga, en fait, à avoir un succès international. Il faudrait vérifier en demandant à Vivien, notre spécialiste SBD sur Osmose Radio. Voilà, chers amis. Et on va continuer dans cet ordre d'idées ce soir, dans cette playlist consacrée au Japon dans laquelle je vous invite. Et on va continuer avec un équivalent, puisqu'on commençait avec un groupe parfois comique à son corps défendant, Indochine à l'instant. Mais on va continuer avec un groupe un petit peu équivalent, mais japonais celui-là, les Mignonnes du groupe Necronomidol, et le morceau Les Ténèbres sans visage. Les ténèbres sans visage à l'instant par le groupe Necronomidol. Necronomidol, c'est vraiment un nom, il fallait y penser. Necronomidol qui est en fait un groupe de jeunes filles, un groupe un peu commercial, il faut le reconnaître. Un groupe de J-Rock un petit peu équivalent en plus électro des Baby Metal que je vous avais passé il y a quelques émissions de cela. C'est-à-dire qu'elles ont la chorégraphie, elles ont le look qui va bien. Ça va gentiment chasser sur les terres du rock gothique, etc. En faisant un genre de syncrétisme entre J-pop, entre metal, entre électro et toutes ces sortes de choses et les thèmes des albums depuis un petit peu plus de 5 ans qu'elles existent, et eh bien sont toujours un petit peu les mêmes. Pareil, on va chercher dans la littérature de Lovecraft, dans les histoires d'horreur, des trucs un peu halloweenesques, etc. Et toujours en japonisant tout ça avec sans pudeur, on va dire. Et notamment de temps en temps, ce qu'aiment faire les Japonais, hein, parfois c'est un peu ridicule, mais c'est toujours assez mignon, je trouve. C'est de baptiser, de mettre des mots français un peu en dépit du bon sens, j'ai envie de dire, un peu à droite à gauche. Et c'est notamment dans le cas de cet album qu'on vient d'écouter, l'album Void Hymn, donc des Necronomidol, qui avait placé ce morceau, Les Ténèbres sans visage, le truc qui veut absolument rien dire, quoi, parmi les morceaux de cet album. Alors, peut-être qu'elle faisait référence à un film d'horreur des années 50, Les Yeux sans visage, qui avait beaucoup influencé et aux États-Unis et en Extrême-Orient, parce qu'il était assez flippant. Un film des années 50, un film d'horreur français dans lequel, effectivement, il y avait une dame masquée pour cacher son visage horrible, qui faisait un petit peu penser aux fantômes japonais, justement, les Oiwa, les Sadako dans le film The Ring, par exemple, et tous ces fantômes étranges venus du bestiaire japonais. Voilà, chers amis, parce que ouais, Konbanwa, soyez les bienvenus, bonsoir, dans cette playlist ce soir qui vous emmène en Extrême-Orient. Alors pourquoi j'avais envie de vous faire une playlist sur ce sujet-là? Parce que déjà, nous, dans la région, quand on a au printemps les cerisiers qui fleurissent au pied du Mont Ventoux ou bien toujours dans les alentours dans la jolie campagne du Vaucluse, pas encore trop nucléarisée pour le moment, quand on a les érables, enfin les arbres qui jaunissent, les feuillages qui rougissent, tout ça au printemps, eh bien tout ce joli panorama nous fait penser un petit peu au Japon, hein, sur les estampes qu'on a pu voir à droite à gauche dans les musées, sur internet ou même dans les films, ou aux carrières de lumière au Beau-de-Provence, puisqu'il y a encore des jolis spectacles en ce moment. Et même si vous n'habitez pas précisément dans la région, vous qui m'écoutez, et bien de toute façon vous avez sans doute lieu de penser au Japon aussi, puisque à droite à gauche, à Marseille, à Montpellier, ou plus précisément à Carpentras ou à Sorgues prochainement, et bien il y a des salons consacrés à la culture japonaise. Alors soit c'est des trucs plutôt focalisés sur la culture manga, animé, jeux vidéo, ou bien ce sont des salons qui sont peut-être un peu plus ouverts sur la culture traditionnelle du Japon, deux choses qui pour ma part m'intéressent et dans lesquelles j'aurai l'occasion de revenir en fin d'émission. Voilà, chers amis, du coup, le ton est donné. Ce soir, c'est une playlist consacrée à la scène rock, metal et goth japonaise. Et du coup, on a commencé un petit peu avec des groupes qui nous invitaient dans ces ambiances-là, chers amis. Voilà. Alors, je vous disais que pour le précédent morceau, Les Ténèbres sans visage, les filles des Necronomidol s'étaient peut-être inspirées, j'en sais rien, mais c'était peut-être inspiré d'un film d'horreur français des années 50, Les Yeux sans visage. Et toujours est-il que, là, je vous apprends rien. Par contre, pour le cinéma ou pour la musique, les Japonais sont capables de faire le pire comme le meilleur. Et le meilleur, parfois, ils le font aussi dans des films étrangers. J'en veux pour preuve le musicien Tomoyas Otei, qui avait contribué à la bande originale d'un film qui vous aura peut-être marqué il y a une quinzaine d'années, Kill Bill. Et tout de suite, je vous propose un extrait de cette bande originale, justement, avec le titre « Battle Without Honor Nor Humanity ».
We'll be right back.
Instant, chers amis, c'était Dirang Gray avec le titre The World of Mercy, The World of Mercy, qui en fait est une nouveauté et dont je vais vous parler un petit peu. Et c'était enchaîné juste avant avec lui un morceau beaucoup plus classique que vous connaissez depuis longtemps pour l'avoir entendu sans doute au cinéma. C'était Battle Without Honor Nor Humanity de Tomoyas Otey, que je vous avais déjà passé il y a quelques émissions d'ailleurs, il me semble, et que vous avez pu entendre dans la bande originale du film Kill Bill. Voilà. Et Dirang Gray, en fait, The World of Mercy, c'est vraiment une nouveauté. C'est sorti le 19 septembre, voilà. Le 19 septembre, qu'ils ont laissé entendre donc avec ce nouveau morceau les titres à venir. Et donc là, ils partent en tournée. Ils seront notamment de passage en France. Donc s'ils sont de passage dans le coin, je vous tiendrai au courant, chers amis. Dirang Gray, donc ce groupe qui existe depuis une vingtaine d'années et qui va pas mal chercher dans le métal, qui reste dans le G-Rock, à mon humble avis, mais qui va quand même pas mal chercher d'influence dans le métal, comme vous avez pu avoir une petite idée à l'instant. Et les Japonais sont complètement fous parfois en matière de musique. Là encore, je ne vous apprend rien, mais je vais vous en donner une preuve supplémentaire, une preuve plutôt rigolote d'ailleurs, avec un groupe qui s'appelait Au Sommet, en un seul mot, hein, pas Au Sommet comme en français, comme le s'ils avaient grimpé le Fujisan, hein, non, pas du tout, Fujiyama qu'on dit aussi, enfin bref, Au Sommet en fait avait sorti un album il y a une douzaine d'années, un album qui s'appelait White Reality, et alors déjà le package était un petit peu intéressant parce que c'était un album sur deux CD enregistrés en fait, il n'y avait pas de pochette, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste les titres écrits au feutre sur les CD. Et il y en avait donc deux CDR en fait. Un avec 4 minutes de musique et un autre avec 2 minutes de musique. Voilà. C'est un concept, hein. Et du coup, ce groupe un petit peu barré, à la fois dans le packaging et dans la musique, comme vous allez pouvoir l'entendre, faisait du rock expérimental de très bonne facture. Et je vous en propose un exemple tout de suite avec le titre Blue Lizard Madness. Osomé avec le titre Blue Lizard Madness. Je ne sais pas si vous avez pris grand chose sur la folie des lézards bleus, mais en tout cas vous en savez un petit peu plus sur l'inconscience et la constance et la folie aussi un petit peu des musiciens japonais avec ce groupe de rock expérimental Osomé qui il y a une douzaine d'années sortait ce morceau sur un album qui s'appelait White Reality et dont le package continue de me faire rire après toutes ces années, c'est-à-dire deux CD, un de 4 minutes de musique et le second avec 2 minutes de musique. Voilà, donc je ne sais pas combien ça a coûté, mais maintenant c'était assez rigolo. Voilà, et on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus connu parce que c'est un musicien qui avait pas mal fait parler de lui il y a à peu près à la même époque d'ailleurs en France, puisqu'on l'avait découvert à l'époque. C'était un japonais qui touchait la guitare, qui taquinait l'instrument, j'ai envie de dire, comme un dieu. Un garçon en fait qui jouait à une vitesse assez hallucinante. Ses doigts couraient sur l'instrument, c'était assez balèze. Et c'était Miyavi en fait. Miyavi qui s'était fait connaître un petit peu à l'époque, au mi-temps des années 2000, et qui jouait de la guitare acoustique en fait, mais avec une énergie, tout ce qui est de plus électrique, ça se tient à la fois au bonhomme et aussi un petit peu au contexte de l'époque. Et du coup, il avait fait parler de lui comme ça avec des morceaux de brutasse. Il jouait vraiment très très vite et il avait aussi une bonne formation en guitare électrique puisqu'il avait un groupe précédemment dans des styles plutôt rock'n'roll. Et du coup, je propose de vous replonger un petit peu dans ces ambiances-là. Miyavi, qui d'ailleurs pour l'anecdote est un métis, c'est un métis de coréen et de japonais. Nous ici, on s'en fout, mais c'est quelque chose qui a un détail qui a son importance dans le contexte japonais où il y a un racisme et un révisionnisme assez crasseux au sein de la société japonaise, même si pas mal de gens évidemment essaient de faire en sorte que les mentalités évoluent. Et c'est peut-être aussi un petit peu le cas d'ailleurs, puisque Miyavi fait un gros succès, y compris au Japon, parce que c'est un musicien qui le mérite tout simplement. Et je vous propose de vous en faire une idée tout de suite avec un morceau qu'on va écouter tout de suite, Selfish Love.
俺が愛してやるぜ届けるようなマイクのメロディーと痺れるくらいきつく人で抱きしめて気が触れるほど何度も行かせてやるぜなんてな まだ全員俺が連れて出会うぜまだ誰も見たことねえ世界へと夢と共に目は覚めちまったけれど、まだまだまだ夜は白けちゃいねえぜ世界は起きたいねえぜ Selfish love, 愛してくれ愛してるからこれが俺の愛し方 Egoistic なこの夜に Egoistic なこの夜に別に永遠などいらないから今夜はただただ俺のそばにいろよ Selfish Love 愛してくれ愛してるからこれが俺の愛し方俺は俺のためにお前は俺のためにそしてお前は俺になるお前は俺になるお前は俺になる お前は俺になる
Faidia avec le titre Dead and Love. Et c'était enchaîné juste avant avec un autre morceau qui parlait d'amour, c'était Selfish Love de Miavi. Voilà, un groupe des années 80 et un musicien lui plus récent, Miavi, qu'on écoutait tout à l'heure. Et Faidia, en fait, c'est un groupe sur lequel je pourrais pas vous en dire des masses parce que les quelques infos que j'ai trouvées, c'était écrit en kanji. Et du coup, bah, c'était un peu inaccessible, en tout cas en ce qui me concerne. Alors Faidia, en fait, par contre, bah, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'était un groupe de glam rock, death rock, dans ces eaux-là, qui oscille entre ces deux extrêmes, j'ai envie de dire, et qui s'inspirait notamment, comme pas mal de groupes japonais dans ces groupes-là, dans ces tendances-là, en fait, du théâtre de Kabuki au niveau de ce qui est des maquillages. Parce que les Japonais ont cette tradition du théâtre comique qu'ils appellent le Kabuki, et dans lesquels les acteurs, les comédiens sont grimés avec des maquillages parfois un petit peu outranciers. Et cette tradition, eh bien, elle se prête bien à des interprétations musicales, comme il y a des styles musicaux qui ont un peu une dimension théâtrale, comme le glam rock ou bien le death rock. Et du coup, bah, ce deux styles qui ont pas mal de succès au Japon, où il y a pas mal de groupes intéressants qui se produisent dans le style, et notamment bah, pour la musique et pour les visuels. Et donc, bah, Faidia ne dérogeait pas à la règle, puisque dans les années 80, au début des années 90, ils avaient quand même des maquillages de fou. Voilà, mais je pourrais pas vous en dire beaucoup, beaucoup plus, chers amis. Et on va rester un petit peu dans le style, mais en revenant en France ce coup-ci, parce que comme je vous l'ai laissé entendre il y a quelques émissions de cela, le J-Rock a fait des émules, et pas seulement au Japon, aussi à l'étranger, notamment en France. Il y a pas mal de groupes qui ont fait des choses très intéressantes dans ces styles musicaux-là. Voilà, je vous avais parlé de Lightning dans la dernière émission que j'avais consacrée au Japon il y a quelques mois, et que vous pouvez retrouver sur le site, dans les podcasts, sur le site d'Osmose Radio, www.osmose-radio.fr. Et dans le même style, eh bien, il y avait un groupe qui avait été très très prometteur au mi-temps des années 2000, là aussi. C'était des jeunes gens de Bordeaux, en fait, qui avaient un quatuor qui avait créé le groupe Lyre, L-Y-R-E, hein, donc comme le joli instrument, sauf que leur lyre à eux était un peu plus électrique quand même, et qu'ils maniaient avec dextérité et talent. Ils avaient sorti un album en 2008 qui s'appelait Duka, et depuis, plus de nouvelles. Et ça fait chier parce qu'ils avaient du talent. Ils avaient du talent, et j'aurais vraiment aimé savoir ce qu'ils devenaient, enfin ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Et toujours est-il qu'il nous reste pas mal d'exemples de leur talent, notamment sur cet album-là, qu'ils avaient sorti il y a un petit peu plus de 10 ans, et dont je vous propose d'écouter un extrait tout de suite, un extrait qui colle un petit peu au thème que je vous disais tout à l'heure, puisque le kabuki, le théâtre japonais, se prête bien aux ambiances death rock et glam rock, et notamment metal aussi. Et on va en avoir un autre exemple avec ce morceau de Lyre, et tout de suite le titre Divine Comedy.
Emmène-moi, cette poussière qui me berne se détachera pas. J'ai creusé jusqu'à m'en écorcher les doigts, à chercher l'abîme, la peur que je ressens en moi. J'ai pensé les plaies qui se tracent sur mon corps, recouvert de sang, ce monde est tellement incolore. We'll be right back.
13th Moon avec le titre Vanish From My Pocket, et c'était enchaîné juste avant que des Français se la lire, et le morceau Divine Comedy. Voilà donc deux morceaux qui chacun à leur manière dans des styles un petit peu différents, puisque lire c'était plutôt G-Rock et Metal, et 13th Moon qu'on écoutait à l'instant c'était vraiment du Death Rock pur et dur, Death Rock, donc ce style qui lui aussi est très théâtral d'ailleurs dans les interprétations durant les concerts. Et ça c'est 13th Moon, c'est un groupe que j'avais découvert sur grâce à l'excellent label français Feu, l'excellent label français Zorch Factory Records, qui il y a une dizaine d'années avait sorti une compilation en fait de différents artistes japonais qui s'appelait Plan X from the Eastern Dark. Voilà, petite référence au plan 9 from Outer Space, le fameux film. Et du coup voilà, on avait pu découvrir comme ça pas mal de groupes qui étaient quasi inconnus chez nous. Et d'ailleurs pour l'anecdote, c'est assez marrant à vous dire si le truc est un petit peu ancien, parce qu'à l'époque les liens qui donnaient sur la pochette de la compilation c'était des liens vers leur MySpace. Voilà, vous vous souvenez de MySpace, hein, ce site un petit peu daté. Et voilà, donc du coup on avait pu faire de belles découvertes comme ça grâce à ce label français qui s'était pas mal bougé le cul pour faire connaître les artistes. Voilà, et du coup on va évoluer un petit peu, on va rester dans cette mentalité japonaise, on va passer à un petit peu autre chose que les endroits où on se rassemble pour aller voir du théâtre. On va aller vers les endroits où on se rassemble pour prier. Et pour que moi je vous parle de religion, c'est que vraiment j'ai une bonne raison pour ça, chers amis. Puisque au Japon, bah vous le savez, il y a la religion un petit peu endémique du Japon, c'est le Shinto, hein, une religion un peu syncrétique avec des qui honore tout autant le culte des ancêtres que les esprits de la nature, les fameux kami. Et par contre, bah, y a pas mal de religions qui viennent de l'étranger. Hein, quand je dis de l'étranger, j'entends ailleurs que l'île, les îles, pardon. pardon, du Japon. Eh bien, il y a le bouddhisme, bien entendu, qui vient d'Asie. Et il y a aussi pas mal d'églises chrétiennes qui ont réussi à s'implanter depuis notamment l'occupation américaine, depuis 1945. Et du coup, grosso merdo, au Japon, vous avez une grosse moitié de shintoïstes, une petite moitié de bouddhistes. Et au milieu, qui se faufilent, il y a des petites religions, pas mal de petites sectes, dont la plupart ne sont pas très dangereuses d'ailleurs. Il y avait la secte Aum au début des années 90 qui avait réussi à faire un attentat, mais eux c'était des fous furieux. Mais ils sont pas tous comme ça. Par contre, il y a un truc qui moi aurait tendance à m'inquiéter, mais dont la japonais apparemment se fout royalement, et bien c'est l'influence des églises évangélistes qui font pas mal de prosélytisme. Et parfois c'est un prosélytisme assez rigolo, je dois le reconnaître, comme avec le cas d'un pasteur en fait japonais qui s'appelle Kazuhiro Sekino. Ce mec-là, en fait, depuis 5 ou 6 ans, a créé un groupe qui s'appelle Boxy Rocks avec d'autres pasteurs comme lui. Lui, c'est un pasteur luthérien, donc a priori évangéliste, une religion qui n'a absolument rien à voir au Japon. Et pourtant, il a créé un groupe comme ça pour faire du rock chrétien. Et c'est plutôt pas mal, d'ailleurs. Et donc, avec ses collègues, ils font surtout des concerts dans les églises. Notamment, le morceau qu'on va écouter tout de suite, Boxy Rocks, avec un hymne à la Sainte Trinité.
Si amusant à ces petits personnages.
Ils sont tellement étranges. D'où viennent ces jouets?
C'est une nouvelle mode qui arrive du Japon. Et faut reconnaître que ces Japonais, ils savent comment vendre aux enfants.
Je dois réunir tous les Chimpokomon et je pourrais devenir grand maître Chimpoko Extramon. Oh!
Achetez tous les Chimpokomon car ce sont les meilleurs amis des enfants.
Je veux devenir grand maître Chimpoko Extramon.
Achetons tous les Chimpokomon.
Hé, les mecs, c'est quoi ça?
Tu connais pas? C'est des Chimpokomon.
Hein?
Alors, dois-tu en déduire que tu n'as pas de Chimpokomon?
Pourquoi? Pourquoi on me dit jamais rien?
C'est les Chimpokomon maintenant.
Si t'as tous les Chimpokomon, tu peux accomplir le premier méga objectif.
C'est quoi le premier méga objectif?
Tu sais même pas ce que c'est que le premier méga objectif?
Le premier méga objectif, c'est détruire le pouvoir obscur.
C'est quoi le pouvoir obscur?
Wally.
Oui, c'est pas vrai! Le pouvoir obscur ne peut se révéler que quand tous les Chimpokomon sont réunis par un grand maître Chimpoko Extramon.
Quoi?
Eh ouais!
Faut vivre avec son temps.
Eh ouais!
Fais chier!
Seul, définitivement seul, perdu au milieu d'une mer d'arbres dense et obscure, la Jukai au pied du mont Fuji. Ici, les rayons de soleil ne pénètrent plus. Vous entendez bien des voix, vous devinez des silhouettes, mais votre corps se balance déjà entre les branches. Vous avez rejoint vos 350 compagnons d'infortune qui, chaque année, ont cette même impulsion morbide, venir ici, pour s'évanouir à jamais. Ou alors, réapparaître en silhouette furtive, en une ombre terrorisant ceux qui osent encore braver les esprits de Aokigahara, la forêt des suicidés.
À l'instant, on allait faire un petit tour dans une forêt un peu spéciale qui se trouve au pied du mont Fuji. C'est comme quoi toutes les forêts sont pas forcément en train de rougir, jaunir calmement en ce moment, puisque au Japon, il y a la fameuse forêt d'Aokigahara où les gens vont se suicider. C'est un peu comme le cimetière des éléphants, mais pour les Japonais dépressifs, en fait. Et du coup, voilà, le lieu est connu pour ça, et donc on considère, à tort ou à raison, qu'il est un petit peu hanté par ces fameux fantômes japonais dont je vous parlais en début d'émission, peut-être, allez savoir. Si vous nous rejoignez à l'instant, ben soyez les bienvenus, vous êtes bien sûr Osmose Radio. Osmose, en japonais, ça signifie la radio avec les charmants animateurs et les beaux techniciens, et puis c'est pas Nourdine et Jordan dans la régie qui me contrediront. Et du coup, vous êtes sur Osmose Radio, vous êtes bien pour une playlist consacrée au Japon ce soir. On arrive tout doucement vers la fin de l'émission, et ben, du coup, dans l'heure du loup, alors, je vais quand même vous parler des morceaux précédents, parce que je vois le bout de l'émission, hélas, qui se profile, mais je vais peut-être vous donner quelques mots sur les morceaux qu'on écoutait précédemment. Tout d'abord, il y avait ce morceau par un pasteur luthérien, en fait, Boxy Rocks, en fait, s'appelle le groupe, et l'homme, lui, s'appelait Kazuhiro Sekino, voilà, donc un pasteur qui s'inspire de Slipknot, de la scène metal américaine contemporaine, et qui fait, par contre, du rock chrétien, et qui va le prêcher dans les églises, comme le morceau en concert qu'on écoutait précédemment, qui s'appelait Trinity, donc un ode à la Sainte Trinité de Dieu, qui n'ont absolument rien de japonais, mais en tout cas, lui, il s'y consacre, voilà. Moi, si j'étais japonais, je trouverais ça un petit peu inquiétant, mais en même temps, je me dis que eux, les japonais, sont pas assez cons pour se convertir en masse au christianisme, donc pas de danger. Et du coup, après, bah, c'était un autre groupe dans un style un peu similaire, c'était Ningen Isu, un groupe de métal qui allait chercher tantôt dans le stoner, tantôt dans le black metal, mais quand même souvent dans quelque chose d'assez proche de Black Sabbath avec du maquillage, pour résumer ainsi. Et par contre, eux, ben, ils rendent honneur un petit peu aux dieux traditionnels du panthéon japonais, puisqu'ils sont grimés, notamment le bassiste, ils sont grimés un petit peu en kami. Vous imaginez un hybride d'oncle Fester dans La Famille Adams et d'un démon japonais tel que vous pouvez voir au musée Guimet par exemple. Et bien voilà, c'est un petit peu la tronche du bassiste de ce groupe là qui existe depuis la fin des années 80 et dont vous avez pu avoir un extrait du talent avec le morceau qu'on écoutait à l'instant, qui s'appelait Ari no Yama, voilà, à l'instant. Et on va aller vers des choses un petit peu plus calmes pour aller vers la fin de l'émission, vous disais-je, puisque on va aller avec un groupe français, celui-là, vers la musique plutôt traditionnelle, matinée d'électronique, comme c'était le cas d'un groupe qui s'appelait Saya Concept, qui avait fait quelques trucs intéressants, puis lui aussi avant de disparaître. Et tout de suite, bah, je vous propose d'écouter le morceau Soki.
Thank you.
À l'instant, chers amis, on allait vers un petit peu de calme et de douceur avec un morceau qui s'appelait Soki, d'un groupe qui, comme son nom ne l'indiquait pas, était français, d'origine asiatique sans doute, et c'était Saya Concept, voilà. Un groupe, je me foutais de MySpace tout à l'heure, mais c'est un groupe que j'avais découvert grâce à MySpace à l'époque, comme quoi, hein, voilà chers amis. Donc on arrive vers la fin de cette émission consacrée au Japon, chers amis, j'espère que vous avez eu du plaisir à l'écouter avec moi, et pas de sushi, hein, j'ai envie de dire, on va aller tout de suite vers la fin de l'émission, mais d'abord quelques petits rappels. Bah, tout d'abord, si j'avais envie de faire cette émission consacrée au Japon, c'est non seulement parce que la saison s'y prêtait, le bel automne, le bel été indien aussi en d'autres termes qu'on a dans la région, en tout cas dans le sud-est, et aussi peut-être chez vous, j'en suis sûr, avec le réchauffement climatique. Et du coup, il y a aussi quand même quelques événements autour de la culture japonaise que je tenais à vous signaler, chers amis. Dans la région notamment, vous aurez à Carpentras ce samedi 12 octobre un salon consacré à la culture traditionnelle japonaise. Donc vous aurez de la calligraphie, de l'ikebana, c'est-à-dire l'art des bouquets floraux, pas mal d'une cérémonie, bien évidemment, enfin tout ce qui est lié à la culture japonaise. Et je vous mettrai évidemment des liens sur Facebook, facebook.com/l'heure du loup tout attaché, si vous voulez en savoir un petit peu plus. De la même manière, à Sorgue, là vous avez un énième, j'ai envie de dire, mais on s'en lasse jamais, un énième salon consacré à la culture manga et animé. Et du coup, vous pourrez aller voir ça là aussi, pas très très loin d'Avignon, si vous êtes intéressé par le sujet, si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qui est bande dessinée japonaise et puis univers fantastique qui correspondent à un petit peu à la culture populaire de ces styles là et de ces auteurs là venus des confins de l'Asie, mais qu'on connaît de mieux en mieux, et sans doute la France est un des pays où on s'y intéresse le plus. Et j'en veux pour preuve les nombreux salons qui existent dans la région, hein, puisque un petit peu plus loin de nous, le 24 octobre, vous aurez un salon du même calibre et peut-être un petit peu plus grand à Montpellier. Et je vous parle même pas de ce qu'il y a les mois suivants. Voilà, chers amis. Bah, du coup, vous aurez de quoi faire si le sujet vous intéresse. Et pour rester dans la culture traditionnelle japonaise et pour rester dans la musique qui va bien sur le sujet, eh bien je vous propose de nous quitter avec quelque chose d'un petit peu décalé comme notre habitude dans l'heure du loup. Et ce soir, ce sera de la musique traditionnelle, en tout cas de la musique avec des instruments traditionnels, interprétés par Yuko Watanabe, qui avait eu une initiative assez marrante, je trouve, quoique pas révolutionnaire, mais j'avais bien aimé sa reprise du fameux titre de Michael Jackson, Smooth Criminal, qu'elle avait interprété donc sur un genre de sitar japonaise, j'ai plus le nom, pardonnez-moi, en tout cas un instrument à cordes pincées qui a un son très caractéristique, un son un peu sec, une résonance un peu mat, et qui a tout ce qu'il y a de plus japonais en fait dès qu'on entend ces tessitures là. Et je vous propose de nous quitter avec une interprétation donc acoustique du fameux morceau de Smooth Criminal qui avait été repris maintes et maintes fois, mais là ce sera d'une manière un petit peu plus décalée, voilà, dans cette playlist consacrée ce soir à la musique japonaise. Passez une bonne nuit, mes petits loups. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, où là par contre on parlera d'un petit peu d'autre chose, on parlera de blues dans l'heure du loup. Mais pour ce soir, donc, je vous quitte avec cette reprise de Michael Jackson version japonaise, et je vous dis bonne soirée, salut.